Frères et sœurs, notre Dieu, le puissant, l'origine, l'accomplissement de toutes choses, nous accueille pour que notre vie soit paisible et notre cœur épanoui. Levez-vous et invoquons le Seigneur notre Dieu avec le premier chant qui est dans la couverture du psautier français. Dans la nuit des inquiétudes, des haines, des guerres, il est force et lumière. Dans la nuit des doutes, des angoisses, des peurs, il est force et lumière. Dans la nuit des souffrances, des maladies, des morts, il est force et lumière, force, courage, lumière, vie, il est la joie qu'il fait monter en nous. Je vous invite à chanter dans le psautier français, le psaume 113, les strophes 1 et 3. En Dieu, monte en nous l'esprit de résurrection, de renouveau. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ne demeurons donc pas en dessous de nos possibilités. Vivons et aimons pleinement. Ne nous répandons pas en ricanements et en dérisions faciles et superficielles. Nous ne pensons pas qu'à l'argent. Écoutons les plaintes de nos prochains. Soyons généreux, que nos mains soient ouvertes. N'étouffons pas l'esprit de force et de résurrection. Vivons pleinement la vie à laquelle le Christ nous invite et disons-lui Amen. Et nous chantons, après la loi de Dieu, dans les liturgies du psautier français, après la volonté de Dieu. Nous restons assis et nous chantons. Mets la joie dans mon cœur, ô mon Dieu, et je te rends grâce. Mets la paix dans mon cœur, car je te prie. Mets la vie dans mon cœur, afin que j'aime jusqu'au soir. Mets la vie dans mon cœur, ô mon Dieu, afin que je comprenne ce que dit le monde. Mets la paix dans mon cœur, afin que je prie. Mets la joie dans mon cœur, afin que j'aime le monde jusqu'au soir. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, pour écouter l'annonce de la grâce. Si vous êtes triste ce matin, si vous avez des soucis, venez alors et chantons la présence de Dieu avec les anges du ciel. Car la présence de Dieu nous renouvelle. Il nous rend beaux et rayonnants. Il nous rend jeunes et souriants. En vérité, avec lui, nous pouvons chanter la douceur de la lumière qui rayonne sourdement en nos cœurs. Amen. Il était un homme, Jésus-Christ, qui a traversé le monde comme une étoile. Il a fait sauter les verrous, les blocages, les tabous. Il redonnait aux hommes la joie et l'espoir, la vie intérieure, la liberté. Les forces du mal qui dépriment, écrasent et aliènent se sont dressées contre lui et il a été environné de ténèbres. Il s'est dressé, ressuscité dans la lumière de Dieu, vainqueur des soldats, de Pilate, des pharisiens, des grands prêtres, libéré de son suaire, des aromates et de sa pierre tombale, comme un bélier en tête du troupeau, comme un premier de cordée, comme un grand frère entraînant les enfants, il nous emmène sur les chemins de Dieu. Difficile chemin de la joie et de la liberté. Il emmène ceux d'entre nous qui sont emprisonnés dans les mailles des filets de leur vie. Il invite ceux qui, comme Zachée, sont trop petits et trop coupables pour redresser la tête. Celles qui, comme Madeleine, ont les cheveux trop longs pour être respectés. Et nous laissons la force qui émane de lui nous arracher à nos tristesses, à nos angoisses, à nos souffrances, car il nous aimante, nous attire, nous conduit chacun dans son sillage vers la source de vie, vers la résurrection, vers l'étoile. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. C'est le moment de la lecture de la Bible. Je lis dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20 à partir du verset 11. Marie de Magdala. Marie de Magdala se tenait dehors, près du tombeau. Elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Je vous invite à chanter dans le cantique louange et prière, le cantique 162, les strophes 1, 2 et 3, levez-vous et chantons. Lumière éternelle, viens briller dans nos cœurs. Sagesse éternelle, viens nous ouvrir à la vie. Amour éternel, aie pitié de nous. Puissance éternelle, viens nous soutenir. De tout notre cœur et de tout notre esprit, de tout notre être, nous cherchons ta face. Que ton amour infini nous fasse entrer en ta sainte présence. L'évangéliste Jean écrit que lorsque le Christ, dans sa gloire, apparaît à Marie-Madeleine, elle le confond avec le jardinier. L'évangéliste Luc, lorsqu'il nous raconte les pèlerins d'Emmaüs, nous dit qu'ils ont cheminé avec le Christ ressuscité, et que pendant tout le trajet, ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont reconnu qu'au geste familier de la rupture du pain. L'évangéliste Matthieu nous dit que les disciples, lorsque le ressuscité leur est apparu sur la montagne, ils se sont prosternés, ce qui dans l'évangile de Matthieu est le geste traditionnel, coutumier de la reconnaissance de l'autorité du roi. Matthieu écrit « Et lorsqu'ils se sont prosternés devant le ressuscité, ils ont douté. » Alors c'est si étrange que certains traducteurs ont voulu arranger un peu le texte et ont écrit « Mais certains doutaient. » Et un autre traducteur dit « Autrefois, ils avaient douté. » Mais Matthieu a bien gardé l'ambiguïté, comme Luc et Jean, le fait que lorsque le ressuscité dans sa gloire apparaît, eh bien justement, il n'est pas dans la gloire. Alors, j'ai lu cette semaine une bande dessinée qui s'appelait « Les premiers chrétiens ». Il racontait l'histoire des premiers chrétiens avec aussi des récits de Jésus. Et lorsqu'ils en arrivaient à dessiner l'apparition du ressuscité, ils dessinaient très bien un Christ glorifié aux vêtements blancs, emporté par le souffle du vent, le souffle de la résurrection, un Christ éblouissant de lumière, impressionnant, saisissant, magnifique, surnaturel, comme à la droite de Dieu. Et si j'ai bien lu Jean, Luc et Matthieu, cette bande dessinée nous trompe. Elle a tort. les récits le disent bien, la présence avec nous du Christ ressuscité, de l'esprit de résurrection qui monte en nous, qui fait monter en nous un élan, une lumière intérieure, une force, une assurance, une capacité de résister aux menaces du quotidien, un amour qui permet d'affronter l'obscurité, une joie. Eh bien, Jésus avait dit, d'ailleurs il avait dit, que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mais Jésus disait aussi à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Cela signifie que son apparition glorieuse à Marie, aux disciples d'Emmaüs, aux disciples, à vous et à moi, n'est pas justement une gloire de ce monde. Ce n'est pas non plus une présence réservée à un au-delà surnaturel après la mort. C'est une présence réservée à une présence intérieure. Ce royaume n'est pas du monde extérieur, mais intérieur. Et Jésus avait dit à Pilate, si mon royaume était de ce monde, à Gethsémané, mes partisans auraient combattu pour moi, pour que je sois nommé roi. C'est une erreur qu'on peut faire. Un jeune protestant enthousiaste a écrit dans un journal protestant « Ce que les jeunes comme moi voulons, c'est une église qui proclame que Christ est Dieu, roi et vainqueur. » Moi, je pense qu'il avait lu la bande dessinée, qu'il l'avait fait tromper. Je pense aussi que, sans se rendre compte, il avait lu l'Évangile exactement à l'envers. Si je retourne les paroles de l'Évangile pour leur faire dire exactement le contraire de ce qu'elles disent, je vous lis « Mon royaume est bien de ce monde, » dit Jésus. « Et puisque mon royaume est de ce monde, mes fidèles doivent s'impliquer à mon service. » Par exemple, à Gethsémané. Et je continue. Les soldats tressèrent une couronne de laurier, pas une couronne d'épines. Si vous lisez à l'envers, les soldats tressèrent une couronne de laurier qu'ils posèrent sur sa tête. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut notre roi !» et ils s'agenouillaient. Jean dit, oui, enfin, il le frappait. Mais à l'envers, il ne le frappait pas. On se trompe souvent. D'ailleurs, nous disons bien, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Alors, si le Père Tout-Puissant est créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui, dans sa gloire, sa majesté et sa toute-puissance, fait tourner les galaxies, comme nous savons qu'elles tournent régulièrement, selon l'élan que Dieu leur donne. S'il est tout-puissant, il fait fonctionner la nature dont il est roi. En ce monde, il fait fonctionner la nature avec une grande harmonie. D'ailleurs, beaucoup de gens disent cela. Et puis, les tigres dévorent les antilopes. Et puis, en Birmanie, il y a un tremblement de terre. Et puis, à Mayotte, il y a un cyclone. Et peut-être que notre roi est distrait. Et dans les églises, mais les musulmans font cela aussi, quand il ne pleut pas assez, on fait des prières pour la pluie, pour rappeler à notre Seigneur que son royaume est de ce monde et qu'il devrait faire tomber la pluie quand elle ne tombe pas suffisamment. Quand elle tombe trop, on lui demande de bien vouloir arrêter ses bénédictions. Quand il y a une guerre et qu'on gagne, on va faire un Te Deum à Notre-Dame et on remercie Dieu d'avoir été, une fois de plus, comme il convient, de notre côté. La Bible à l'envers dit bien « les soldats s'agenouillaient ». Le royaume de Dieu est-il de ce monde ? Dieu attend-il de nous qu'à Gethsémané ou dans les cas semblables, nous nous impliquions à son service pour être des fidèles sujets de son royaume et que nous fassions régner son royaume ici, en ce monde, si ce royaume est de ce monde ? Si ce royaume est de ce monde, est-ce que nous pensons que Dieu regarde sans cesse si nous marchons selon son royaume en ce monde, que nous faisons tout parfait comme il convient en fidèle sujet du roi ? Remarquez, Jean n'a pas dit que le ressuscité apparaissant à Marie lui disait « pécheresse, pécheresse, pécheresse ». Si vous avez regardé la liturgie d'enterrement du pape François hier, vous avez vu le cardinal qui commençait en disant « je suis pécheur, pécheur, pécheur ». C'est l'idée d'un Dieu tout-puissant dont le royaume est de ce monde et qui, de façon un peu sadique, comme un percepteur des impôts, dit « tu es pécheur, tu es pécheur ». C'est ce que Jésus ne dit pas à Marie. Il lui dit « Marie ». Et elle, se sentant connue, elle, se sentant nommée, elle, sentant cette présence du ressuscité en elle, lui répond dans sa langue « Rabouni ». Je me demande quel mot nous répondons à la présence du ressuscité qui sourdement, invisiblement, monte en nous et nous donne cet élan de dynamisme créateur, sans nous dire « pécheur, pécheur, pécheur ». Il est vrai que nos cultes protestants et les messes catholiques commencent toujours par nous dire « vous êtes pécheur ». Vous n'avez pas fait ce que vous deviez, comme si le regard de Dieu était avant tout culpabilisant, comme si Dieu nous regardait comme jamais aucun père ni aucune mère ne se permettrait de regarder ses enfants en regardant avant tout s'ils sont coupables. Alors que quand on regarde ses enfants, c'est plutôt parce qu'on les trouve agréables et sympathiques. Toujours pécheur, même quand nous faisons le bien. Après tout, quand nous organisons la sécurité sociale pour que tout le monde dans ce pays puisse se faire soigner, même s'il n'en a pas les moyens, lorsque nous organisons le RSA pour que tout le monde dans ce pays ait au moins un petit quelque chose, lorsque nous organisons les restaurants du cœur, les repas fraternels ouverts à tous, lorsque nous organisons le secours populaire et Médecins sans frontières, tout ce qui pourrait concrétiser le royaume de Dieu, nous disons « ça n'est pas suffisant, nous sommes pécheurs », comme si le royaume de Dieu était absolument nécessaire et en même temps que nous ne le réussissions pas, comme si c'était cela la question. Réaliser le royaume en ce monde d'un Christ glorieux, ce que l'évangile de Jean, l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu ne disent pas possible, est quelque chose d'absolument impossible. Nous ne pouvons pas, il n'est pas question dans les évangiles de réaliser de façon concrète le royaume de Dieu, car il n'est pas de ce monde, ni en nous, ni dans le reste du monde. D'ailleurs, cette erreur avait été faite aussi pendant le ministère de Jésus. Jean nous raconte, c'est au chapitre 6 déjà, que la foule enthousiaste de celui qui allait effectivement être le ressuscité glorieux, la foule enthousiaste du Christ voulait le faire roi. Comme le jeune disait, nous voulons une église qui parle d'un Christ roi vainqueur. Et Jean nous dit, voyant cela, Jésus se retira sur la montagne, tout seul. Parce que lorsque l'on veut réaliser le royaume de Dieu ici et maintenant, alors qu'il n'est pas de ce monde, nous ne faisons qu'organiser un horrible fascisme cruel et inhumain. Rappelez-vous l'Inquisition, qui était partie du bon sentiment de réaliser le royaume de Dieu sur terre sans qu'il y ait aucune hérésie possible. Rappelons-nous les persécutions des protestants. Rappelons-nous les persécutions des juifs. Chaque fois que l'on a voulu réaliser concrètement le royaume de Dieu comme il convient, on a fait un horrible fascisme cruel et inhumain. De nos jours encore, il y a des groupements qui tiennent à réaliser de force ce qu'ils appellent la volonté de Dieu, le royaume de Dieu, en interdisant les IVG, en interdisant l'aide à mourir, en interdisant l'homosexualité, en obligeant de participer, cela se fait dans certains pays, à participer à des offices religieux, à des règlements alimentaires, à des interdictions alimentaires. Et remarquez que chaque fois, l'amour du règne de Dieu, l'amour de l'Évangile devient haine de Dieu, devient haine de la religion, jusqu'aux terribles pharisiens fidèles qui ont fait effectivement crucifier Jésus et qui ont fait sceller de leur sceau la tombe de Jésus. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, cela ne signifie pas qu'il est après la mort. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde extérieur, mais il est à l'intérieur de nous. Le Christ est vraiment ressuscité et sa présence monte en nous comme une boussole dans notre cœur qui nous fait nous tourner vers la foi, vers l'espérance, vers l'amour. Nous ne sommes pas des enfants du péché originel, comme on l'a dit souvent, nous sommes des enfants de la grâce originelle, de l'amour que Dieu a pour nous lorsqu'il nous regarde et qu'il ne nous demande pas de faire ce que personne ne peut faire. Dès le début de son évangile, l'évangéliste Luc disait « Lorsque toute l'armée des cieux est venue sur la terre à la gloire de la naissance de Jésus, elle n'est pas venue à Jérusalem ou à Rome, elle est venue dans le champ où il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux. » Ambiguïté. Lorsque l'évangéliste Matthieu nous dit aussi que les mages venus d'Orient sont venus adorer celui qui devrait être le roi des Juifs, il y a eu le massacre des innocents et Jésus a dû se sauver en Égypte avec Joseph et Marie, parce que le royaume n'est pas de ce monde. Dès le début de l'évangile, on le comprend bien, c'est une royauté intérieure. L'évangéliste Jean parle de cette parole par qui tout a été fait, qui s'est intégrée en Jésus comme elle s'intègre en tous ceux qui veulent bien suivre sa parole et avec ce dynamisme créateur nous envahir et faire des choses nouvelles en nous à la manière du Christ. Le royaume du ressuscité n'est pas de ce monde, mais il est bien en notre monde intérieur. Ce n'est pas Dieu qui fait régner les ténèbres des inondations. Ce n'est pas Dieu qui fait régner les ténèbres des tremblements de terre, des cancers, des maladies, des deuils, des divorces, des souffrances et des angoisses. Mais dans toutes ces choses qui arrivent à l'extérieur de notre vie, le dynamisme créateur du ressuscité fait briller sa lumière à travers ces ténèbres. Dans les ténèbres, il y a toujours cette lumière qui brille. Ce n'est pas le Christ ressuscité qui fait régner les ténèbres des échecs et des malheurs, mais en chacun, la présence de l'Esprit du ressuscité fait régner le renouveau, l'Esprit de résurrection, la joie. Dieu ne regarde pas si nous sommes de bons fidèles du roi. Il sait que ça n'est pas envisageable en ce monde. Il se réjouit du dynamisme créateur qu'il fait monter en nos cœurs, qui éclaire nos existences et nous donne le courage de vivre, qui donne la joie, joie de la présence intérieure, tonique, créatrice, suscitant une relation d'amour malgré tout, joie de vivre la bonne nouvelle d'une vie renouvelée dans l'Esprit du ressuscité. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 170 dans le recueil Louanges et prières, les strophes 1, 2 et 3. Levez-vous et chantons.
Bonjour à tous. Quelques annonces au nom du Conseil presbytéral. D'abord, un grand merci à toi, Monsieur Gilles Castelnau, notre pasteur préféré, qui est arrivé tout à l'heure, aller dans la paroisse, en me disant « Tu sais quoi ? J'ai 90 ans et je me demande pourquoi je prêche encore. Mais hier, j'ai regardé à la télé le cardinal qu'a enterré le pape avait 90 ans. »
Il l'a dit.
Et donc, au nom du Conseil presbytéral, je voulais te faire un cadeau, parce que toute l'année, et depuis toujours d'ailleurs, tu me l'as dit encore tout à l'heure, tu es un des plus anciens paroissiens de l'oratoire, tu réponds toujours oui quand on te demande un coup de main. Et là, cette année, Béatrice Clairemazur est toute seule. On devait avoir un autre pasteur venant aujourd'hui qui, au dernier moment, s'est annulé et t'a dit « Ok, je prends ». Pareil, qu'on a un enterrement deux fois par jour, ce qui est arrivé aussi cette année, tu as pris. Donc au nom du Conseil presbytéral, puisqu'on est toujours dans l'esprit de Pâques, je voudrais t'offrir un chocolat. Mais alors, j'ai hésité avec le lapin, le nounours, la cloche. Et en fait, on a trouvé, regarde, un œuf du dragon. Un œuf de dragon. Parce que tu sais quoi, en Asie et au Vietnam notamment, dont vient Meu, de l'un qui part en vacances, donc je te souhaite d'excellentes vacances, Meu, avec Gérard au Vietnam, le dragon est gentil. Il a du feu en lui et il est gentil et bienveillant. Et donc on pense que vraiment, vous êtes tous d'accord, pour Gilles, l'œuf du dragon, il n'y avait pas mieux. Et puis surtout, tu l'as dit surtout, je veux dire, on a Dieu en nous à ce moment-là. Tu as dit dans ta prière de pardon, on est beau et rayonnant, jeune et souriant. Voilà.
On est jeune. Soyez-le, et je le suis.
Grand merci à toi. J'en profite aussi pour dire grand merci au pasteur Vincent Hubach, qui nous aide aussi très souvent, et Jean-Pierre Rive, quand tu étais à Paris, qui a aussi beaucoup aidé l'oratoire. Donc nous avons trois retraités aujourd'hui, et vraiment, c'est un grand bonheur. Quelques annonces. Bah, écoutez, vous avez entendu, les deux lins partent au Vietnam, donc à partir de la semaine prochaine, on est tout seul pendant plus d'un mois. Béatrice Clairemazur se repose grâce à toi. Toi, tu manges ton chocolat, s'il te plaît, avec ta chair étendre. Alors, tu vas être pêcheur, parce que c'est quand même très, très beau. Donc ça va être compliqué pour toi, je te laisse choisir avec ton épouse. Et Béatrice Clairemazur, nous la retrouvons dimanche prochain. Et puis cette semaine, les cours de peinture, cours de grec, etc. recommencent. C'est le moment de l'offrande, le don joyeux. On est vraiment très joyeux, c'est pas qu'on est très joyeux de t'avoir. Encore un grand merci à vous tous et bon dimanche. Et tout à l'heure, on partage la scène.
Et tout le monde est invité à la scène, quelle que soit son église ou sa non-église.
Puis avec Gilles, on a oublié de créer des vocations. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière à Pâques. On a des tout petits œufs de dragon rouge. Et on a des jeunes dans l'assemblée. Donc, bien entendu, on va leur offrir juste avant la scène. Ils se passeront de vin rouge comme ça. Ils auront les petits œufs.
Dieu nous dit, si tu as besoin de moi, je suis là. Tu ne peux pas me voir, pourtant je suis la lumière qui te permet de voir. Tu ne peux pas m'entendre, pourtant je parle par ta voix. Tu ne peux pas me toucher, pourtant je suis la force de tes mains. J'agis sans cesse, incognito.
Je ne suis pas dans les visions surnaturelles, ni dans le miraculeux. C'est dans le silence, au profond de ton être que tu me trouves, comme un élan, comme un sourire, comme un amour. Je suis vraiment là, je t'écoute, je te parle tout doucement.
Quand tu as besoin de moi, je suis là. Dans tes blocages, je suis là. Dans ta solitude, je suis là. Dans tes angoisses, je suis là. Dans tes peines, je suis là.
Tu m'ignores peut-être, mais je suis pourtant là. Ta foi en moi est vague, mais ma présence demeure. Parce que je t'aime, mon enfant, je suis là.
Et nous chantons le cantique spontané qui est dans votre recueil, dans la couverture du psautier français. Lors de son dernier repas avec ses disciples, Jésus prit du pain, rendit grâce, le rompit. Il partagea aussi la coupe de vin. « Faites cela en souvenir de moi, dit-il. Nous rompons le pain comme il l'a fait. Nous partageons aussi la coupe de vin. Et nous nous souvenons de la phrase de l'apôtre Paul. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. »
Ne le sentons-nous pas ? Il y a un esprit dans l'air qui proclame sur toute la terre l'amour que Jésus-Christ a fait connaître par sa vie, par son œuvre en ce monde. Oublions notre réserve Laissons l'amour de Dieu agir en nous et vivons donc ce que Jésus a fait. Dieu en Christ est venu pour rester. Sentons sa présence parmi nous.
Quand le pain est partagé, quand l'enfant qui a faim est nourri, quand le SDF est logé et l'étranger est accueilli, sentons sa force parmi nous. En vérité, il y a un esprit dans l'air qui proclame par toute la terre l'amour que Jésus-Christ a fait connaître par sa vie, par son œuvre en ce monde. Je vous invite à vous lever pour dire le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons encore le spontané indiqué. Frères et sœurs, je vous invite à former le grand cercle autour du temple. Ceux qui ne souhaitent pas communier viennent néanmoins et passeront à leurs voisins le pain et le vin sans crainte. Le pain de vie pour ceux qui ont faim de vie. La coupe de compassion pour un monde malheureux.
Nous chantons à toi la gloire dans le numéro 150 de Louange et prière. Les trois strophes.
Frères et sœurs, si vous ne réussissez pas dans toutes vos entreprises, recevez du moins dans vos cœurs la présence de Dieu qui donnera sa couleur à vos existences. Si vous subissez des échecs, puisez du moins en vous la force de Dieu qui vous permettra de tenir. Si vous traversez des jours troublés, et si les autres vous déplaisent, sachez du moins comprendre leurs épreuves. Et si vous butez sur des conflits insolubles, conduisez-vous, si vous le pouvez, en artisan solidaire de partage et de paix. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Amen.
Merci.
Et bon dimanche à tous, et Gilles vous attend devant la porte. Bon dimanche, encore merci à toi Gilles.
Okay, pour les comptables.